Question d'islam par Al-Benchir. Aujourd'hui, nous parlons de la grande figure d'Ali. Ali, le gendre du prophète, son cousin germain, le premier imam du chiisme, et notamment le chiisme duodécimain. Et j'ai plaisir à recevoir pour évoquer cette grande figure et ce sujet. J'ai la joie de recevoir Mohamed Ali Amir Moaizi, directeur d'études à l'EPHE, et titulaire de la chaire exégèse et théologie de l'islam chiite. Mohamed Ali Amir Moaizi, bonjour.
Bonjour, Valé.
Merci d'être avec nous. Je souligne d'emblée que vous êtes un digne héritier en étant à la tête de cette chaire d'exégèse et de théologie de l'islam chiite, des grands islamologues qui vous ont précédé, Massignon, Henri Corbin. Et c'est vraiment une grande joie de vous avoir à ce micro. Vous êtes intéressé depuis toujours à Ali comme homme, et vous nous direz quelque chose sur l'Ali historique, mais aussi l'Ali le spirituel.
Oui, c'est-à-dire que le livre que je viens de publier, qui s'appelle « Ali, le secret bien gardé », effectivement est une étude sur la figure spirituelle de Ali, c'est-à-dire sur les représentations, je dirais au pluriel, de Ali, en particulier dans la spiritualité chiite. Alors comme vous l'avez dit, Ali, bien sûr, c'est un des personnages les plus importants, d'une importance absolument considérable des débuts de l'islam, des origines de l'islam. Donc, gendre et de ce fait-là, le père de la seule descendance masculine du prophète, parce qu'il était époux de Fatima, la fille du prophète Mohammed. Cousin germain, un de ses plus importants compagnons, quatrième calife de l'islam, c'est-à-dire quatrième successeur du prophète. Et effectivement, premier imam et imam par excellence pour les chiites, pour toutes les branches du chiisme et bien sûr pour le chiisme majoritaire, comme vous l'avez dit, le chiisme duodécimain. Alors, le personnage historique, c'est un peu le cas de tous les personnages historiques des origines de l'islam, est très mal connu à cause du problème que nous posent les sources islamiques sur tout ce qui est origine de l'islam et du Coran. Ces sources sont extrêmement contradictoires parce que écrites par des auteurs appartenant à des factions théologiques et politiques qui étaient le plus souvent en guerre les unes contre les autres. Et donc, ces sources-là, et puis ils sont très éloignés dans le temps de ces temps des origines. Et donc, si vous voulez, les données historiques sont vraiment sujettes à caution. Et puis la figure de Ali est comme on dit maintenant est extrêmement clivante, hein, c'est-à-dire que si vous voulez les premières guerres civiles de l'islam commencent avec la question de la succession du prophète, justement entre les partisans de Ali qui considéraient qu'il était le seul successeur légitime du prophète et ses adversaires qui n'acceptaient pas cela et donc ont eu recours à disons une sorte d'élection qui a porté au pouvoir Abou Bakr, qui est devenu le premier calife de l'islam. Donc, à cause de cette question de la succession du prophète, et puis les implications de ce problème, Ali est devenu le personnage le plus problématique, en quelque sorte, des sources de l'islam, ce qui fait que, donc, il y a des informations extrêmement contradictoires à son sujet. Donc, bien sûr, dans l'introduction de ce livre, je donne, disons, les éléments disons les moins invraisemblables de la vie de Ali que l'on trouve dans les sources, mais ce qui m'intéresse, c'est sa figure spirituelle. C'est sa figure spirituelle, ses représentations qui sont parfois, comme vous le savez, dans l'histoire des religions, les figures sont plus importantes que, je dirais, le personnage historique.
Oui, peut-être encore un mot sur le personnage historique. Il est né, il serait né 30 ans après cet événement qu'on appelle l'année de l'éléphant, Donc ça nous fait venir à la fin du 6e siècle, 598, 600. D'aucuns disent comme il est mort à l'âge de 63 ans, un peu comme le prophète, et comme il est mort en 661, il serait né en 598.
Oui, plus ou moins, bien sûr, nous sommes aux confins donc de 6e, 7e siècle de, de notre ère. Donc pour la, comme la, je dirais, comme époque, c'est absolument sûr. Bon, mais les années posent problème, bien sûr.
Un des proches compagnons du prophète, il l'avait accueilli dans sa maisonnée, il l'a accompagné. Il y a toute l'histoire, peut-être magnifiée par la suite, juste avant l'Égir, après l'Égir, et puis les épousailles avec Fatima, vous l'avez évoqué, jusqu'à la mort du prophète.
Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, il avait des relations très, très privilégiées avec le prophète, même avant l'avènement prophétique de Mohammed. Ils étaient cousins germains, qui est quand même le lien de parenté par excellence dans la culture tribale arabe. Et puis, le fait qu'il ait été le père de la seule descendance mâle du prophète en les personnes de Hassan et Hussein, donc ses deux fils, les deux fils qu'il a eus avec Fatima, faisait de lui un personnage extrêmement important. Mais par la suite, on parlera d'autre chose, hein, c'est-à-dire qui fait de lui une figure extrêmement importante des origines de l'islam.
Encore peut-être un dernier point, ce qui est singulier, c'est qu'il est resté strictement monogame avec Fatima, ce qui n'était pas la coutume à l'époque, et dans le milieu tribal arabe.
Tant que Fatima était en vie. Tant que Fatima était en vie, effectivement, elle est restée sa seule épouse. Et effectivement, le fait est suffisamment singulier pour être souligné.
Quelques mots, si vous voulez bien, Mohamed Ali Amir Moezi, sur la succession. A-t-il accepté, pas accepté, porté allégeance, reconnu le califat d'Abou Bakr ou pas? C'est à vous de nous le dire. Et comment était son propre califat à lui?
Alors, sur son acceptation ou pas, il y a des versions radicalement différentes, selon qu'il s'agisse des sources sunnites ou de sources chiites.
On est en 632, hein, voilà. Mois de juin 632.
Voilà. Alors donc, effectivement, les premières sources qui nous parlent de ces événements extrêmement importants, hein, pour la destinée historique de l'islam, sont beaucoup plus tardives par rapport à ce temps-là. Mais toujours est-il que, donc, selon les sources sunnites, il y a eu, après la mort du prophète, quelques discussions entre, disons, les différents fidèles de Mohammed. Et finalement, après quelques tensions, tout le monde s'est mis d'accord pour, disons, choisir Abou Bakr, qui était un personnage extrêmement important, lui aussi, parmi les compagnons du prophète, et un des beaux-pères de Mohammed, hein, sa fille. Et Aïcha était une des épouses du prophète. Et donc, il y a eu quelques tensions, mais finalement, tout le monde, y compris Ali, se sont mis d'accord, ont été unanimes pour choisir Abou Bakr. Et puis, simplement, après, il y a eu ce qu'on appelle les guerres de rébellion, al-Hurub al-Ridda. Mais ça, c'est autre chose. Donc, ça ne concerne pas la divergence entre Abou Bakr et Ali et ses partisans. Donc, ça, c'est la version sunnite. Qui essaye, si vous voulez, enfin, où sont occultées les divergences, voire les violences extrêmes, qui, selon les chiites, ont eu lieu après la mort du prophète. Donc, les sources chiites présentent les choses de manière tout à fait différente. Selon ces sources chiites, la succession du prophète a donné lieu à des extrêmes violences, c'est-à-dire que Ali n'a pas accepté l'élection d'Abou Bakr. Il a essayé de se présenter comme le seul successeur légitime du prophète, avec sa femme Fatima et leurs deux fils, ils sont présentés comme la famille immédiate du prophète, le Ahl al-Bayt, c'est-à-dire la sainte famille pour les chiites.
Ou les gens de la demeure, ou la sainte famille, la famille du prophète.
La famille du prophète. Et donc, simplement, il y a eu une résistance, et en particulier de la part de Fatima. La maison de Ali va être, pour les dissuader, pour accepter l'élection d'Abou Bakr, la maison de Ali va être attaquée par Omar, donc qui sera le deuxième calife.
Et presque incendié.
Et incendié. Oui. Et Fatima sera frappée par les hommes de main de Omar, et qui mourra quelques semaines après son père à la suite de ses blessures, et entre autres, elle perdra l'enfant qu'elle avait en son sein. Donc nous avons une version tout à fait différente, avec une version extrêmement violente sur la succession du prophète. Donc, et à la suite de ces attaques et les blessures subies par Fatima, Ali va être obligé d'accepter, à contre-cœur bien sûr, et pour sauvegarder la vie de ses deux enfants, qui sont les seuls successeurs, enfin le seul descendant mâle du prophète, il va accepter. Et donc, à partir de là, si vous voulez, pour les chiites, la déchéance ou la décadence, je dirais, de l'islam officiel ou de l'islam califal commence dès cette question de la succession.
Alors, qu'est-ce qui explique, selon vous, Mohamed Ali Amir Moïsi, que presque le même scénario se reproduit avec Omar et avec Othman, parce qu'il n'est que le quatrième, si je puis dire, que le quatrième calife?
Alors, selon les chiites, bien sûr, selon les sources sunnites, si vous voulez, ces élections auront lieu de manière pacifique et de manière consensuelle,
naturelle.
Selon les chiites, non. C'est-à-dire que après cet échec, qui était de manière, je dirais, constitue pour le chiisme le début de la scission entre les alides, qui deviendront plus tard les chiites, et leurs adversaires, on ne parle pas encore du sunnite.
Les alides sont les proto-chiites.
Les alides sont les proto-chiites, les gens de Ali, les fidèles de Ali. Donc, pour eux, Ali s'écarte des cercles de pouvoir et reste à l'écart, selon les textes chiites, pour mettre par écrit la version intégrale et authentique du Coran. Et donc, il n'intervient pas dans les affaires publiques, sauf peut-être pour donner parfois quelques conseils aux uns et aux autres. Et c'est finalement, après, effectivement, en quatrième lieu, et après, je dirais, les guerres civiles qui marquent le califat du troisième calife, Osman, qui sera finalement assassiné, dans ce qu'on appelle la première guerre civile, la première fitna entre musulmans, mais qui est, selon les chiites, c'est la deuxième après les guerres civiles de la succession du prophète. Après l'assassinat de Osman, c'est lui qui est porté au pouvoir par, disons, un ensemble extrêmement hétéroclite de gens. Et donc, effectivement, son califat illustre ces tensions, puisqu'il a régné 5 ans, et ces 5 ans ont connu 3 très grandes guerres civiles. D'abord, la guerre du chameau, donc contre la veuve du prophète, Aïcha, et la fille d'Abou Bakr, et 2 grands compagnons, Talha et Zubayr. Ensuite, la guerre de Siffin, contre un autre très grand clan de la tribu de Quraysh, c'est-à-dire les Omeyyades.
Et puis, la guerre de Nahrawan.
Et la troisième guerre, Nahrawan, contre les Kharijites, c'est-à-dire ses anciens fidèles, devenus ses pires ennemis. Et finalement, il sera lui aussi assassiné, comme beaucoup de personnages des débuts de l'islam, par un Kharijite, c'est-à-dire par un autre musulman.
Kharijite, on peut dire dissident, sécessionniste, sortant, c'est le terme même de Kharijite, je le dis pour nos amis auditeurs. Donc ça, c'est le Ali historique, finalement.
Oui, ces éléments qui sont peu nombreux, donc on peut dire que ce qu'on peut connaître de plausible, à peu près plausible, sur la vie du Ali historique.
Les chiites diront que sa succession ne devait poser aucun problème parce que le prophète lui-même l'avait suggéré, désigné, peut-être même explicitement, notamment lors de ce fameux sermon, un marécage, un étang, Radir Khum.
Effectivement, c'est ce que disent les chiites. Là aussi, il y a une divergence fondamentale entre chiites et sunnites. C'est que, donc, selon les sunnites, le prophète n'avait désigné personne explicitement pour sa succession. Et donc, c'est pour cela que ses fidèles ont eu recours à cette sorte d'élection. Pour les chiites, ce n'est absolument pas comme cela que les choses se sont passées. Selon les chiites, le prophète avait explicitement désigné Ali, parce que pour les chiites, la question de la succession du prophète est une question hautement religieuse, et donc ça ne revient pas aux hommes de choisir le successeur d'un prophète, comme ce n'est pas aux hommes de choisir le prophète lui-même. Donc il s'agit, la succession d'un prophète est une affaire de d'élection divine. Et donc, non seulement le prophète lui-même avait désigné Ali, puisqu'il se souciait de la destinée de sa communauté de fidèles après sa mort, mais les chiites vont beaucoup plus loin, ils disent que le Dieu lui-même avait désigné Ali comme le successeur du prophète, puisque, selon les chiites, alors bien sûr, c'est-à-dire que ceux qui connaissent le Coran savent que le Coran que l'on connaît ne parle jamais explicitement de Ali. Mais pendant les trois premiers siècles de l'islam, de l'Égypte, les Alides, devenus les chiites, soutenaient que le Coran officiel est une version falsifiée et censurée de la véritable révélation faite à Mohammed.
Amputée des passages qui parlent explicitement de la lieutenance d'Ali par rapport à Mohammed et qui était désigné par Dieu lui-même comme successeur de Mohammed.
Voilà, non seulement comme successeur, comme véritablement l'allié de Dieu, hein, le wali, c'est-à-dire que pour les chiites, leur raison d'être même de la révélation faite à Mohammed était l'annonce de l'alliance, c'est une des traductions que l'on peut faire du terme de walaya, hein, l'alliance pratiquement dans le sens biblique du terme, de l'alliance divine de Ali. Donc, pour les chiites, le Coran originel mentionnait très très souvent la question de l'alliance, de la walaya de Ali. Et donc, effectivement, après la mort du prophète et justement les conflits qui ont abouti au califat d'Abou Bakr, ceux qui sont arrivés au pouvoir, selon les chiites, étaient les adversaires de Ali. Et une des premières choses qu'ils ont faites, c'était justement de supprimer les passages qui parlaient de Ali et de sa sainteté de ce Coran, du Coran originel. Ce qui a donné ce Coran officiel, que l'on pourrait appeler le Coran califat ou le Coran impérial, et qui est effectivement purgé, selon les chiites, de toutes les mentions de Ali et de sa sainteté et de sa famille.
Et puis, entre autres controverses avec leurs antagonistes ou protagonistes sunnites, c'est que lors de cet événement ou de retour du pèlerinage de l'adieu, où le prophète avec ses compagnons s'est arrêté devant cette mare ou cet étang, ou ce marécage, il a dit, celui dont je suis le maître ou le seigneur, Ali l'est aussi. Et donc les sunnites ne le comprennent pas comme ça.
Oui, c'est-à-dire que oui, pour les sunnites qui acceptent également cette tradition prophétique, le mot Wali que vous avez traduit maître ou patron ou seigneur ne donne pas à Ali la légitimité califale. Il s'agit de son rang, de son estime au regard du prophète. Mais pour les chiites, c'est bien sûr, le mot est extrêmement fort. Ça désigne non seulement la succession du prophète, mais également la sainteté de Ali. Donc là, c'est une notion, si vous voulez, on peut être considéré comme la première étincelle de la formation d'une véritable religion de Ali, entre guillemets, hein, j'en parle beaucoup dans
Din Ali, on verra ça voilà. Ensemble.
La première étincelle de cette religion de Ali, où la figure de Ali devient en quelque sorte la colonne vertébrale d'une véritable doctrine qui peu à peu deviendra la religion chiite.
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam. Aujourd'hui, nous parlons de la figure d'Ali, figure centrale et fondamentale dans la doctrine chiite, avec le grand islamologue, c'est moi qui souligne, Mohamed Ali Amir Moïsi, directeur d'études à l'école pratique des hautes études, titulaire de la chaire exégèse et théologie de l'islam chiite. Mohamed Ali Amir Moïsi, dans votre ouvrage « Ali, le secret bien gardé », vous nous présentez, tel que vous l'avez fait là, Ali dans ses contours de personnage historique. Il va y avoir, et nous le verrons ensemble tout au long de l'émission, un horizon spirituel. Mais ce qui m'avait frappé dans votre livre, c'est le fait que Ali soit l'autre pendant ou le Coran parlant dans une approche ésotérique. On a le Coran dans son sens obvi, ça c'est pour tout le monde, et encore, ce n'est pas celui qui est expurgé des passages qui font explicitement mention de l'importance d'Ali, mais il y a aussi que Ali lui-même en est la clé et la compréhension exégétique, anagogique et ésotérique.
Vous avez raison, c'est-à-dire que, si vous voulez, moi j'ai dit et j'ai écrit que le chiisme est la religion de l'imam, et bon, Ali est l'imam par excellence, donc on peut dire le chiisme est la religion de Ali comme le christianisme est la religion de Christ. Pourquoi je dis cela? Parce que très tôt, Ali devient une figure théophanique, au même titre que Jésus, c'est-à-dire une figure qui manifeste ce qui peut être manifesté de Dieu. Selon la théologie chiite, dans ses sources les plus anciennes, c'est-à-dire le corpus de hadith, des enseignements remontant aux imams, c'est-à-dire à Ali et à ses descendants, dès ce corpus, l'imam est présenté comme une figure qui manifeste sur terre les noms et les attributs de Dieu. Et donc, à partir de là, la figure de l'imam devient véritablement la colonne vertébrale de la religion chiite, de telle sorte que tous les chapitres religieux, toutes les disciplines religieuses prennent sens dans le chiisme par rapport à la figure de l'imam. Tous les chapitres religieux, c'est-à-dire le droit, la théologie, l'exégèse coranique, plus tard la philosophie, la mystique, etc., l'eschatologie, la cosmologie, tous ces chapitres prennent sens dans le chiisme par rapport à ce qu'on pourrait appeler l'imamologie, c'est-à-dire la doctrine religieuse concernant la figure de l'imam. Et Ali est, dans ce sens, l'imam par excellence. Il est le premier imam de toutes les branches du chiisme, et puis le père de tous les autres, donc par Fatima. Et donc, à partir de là, si vous voulez, pour revenir à ce que vous disiez, le chiisme développe, disons, une vision du monde, ou même une double vision du monde. Une première vision, c'est ce que j'ai appelé la vision duelle, c'est-à-dire que toute réalité a une dimension apparente et une dimension cachée, une dimension exotérique et une dimension ésotérique. Toute réalité, la plus haute, Dieu. Selon la théologie chiite, il y a un Dieu caché, c'est l'essence de Dieu qui reste à jamais caché, c'est le niveau de l'inconnaissable absolu, et puis au sein de l'être de Dieu, il y a un autre niveau qui est le niveau des noms et des attributs de Dieu et qui constitue le Dieu révélé, de ce qui peut se révéler de Dieu aux créatures. Et donc dans le chiisme, l'imam est le véhicule, le lieu théophanique, le lieu de manifestation de ce Dieu révélé. Donc, en quelque sorte, la connaissance de Dieu, ou ce qui peut être connu en Dieu, parce qu'il y a toujours quelque chose en Dieu qui reste absolument inconnaissable, mais il y a un Dieu inconnu qui aspire à être connu, et cette connaissance de Dieu inconnu passe, dans le schisme, par la connaissance du lieu de manifestation de Dieu, qui est la figure de l'imam.
Et c'est pour cela que Ali est le maître de l'herméneutique.
Alors, nous arrivons, si vous voulez, je parlais de ce double niveau apparent et caché de Dieu, mais on trouve ce double niveau dans les Écritures. C'est-à-dire que la parole de Dieu, qui se manifeste sous forme de livres, comme dans les religions monothéistes, la parole de Dieu a elle aussi un aspect exotérique et un aspect ésotérique. c'est un peu le couple de saint Paul, hein, la lettre et l'esprit. Donc le prophète, les différents prophètes des différentes religions sont les messagers de la lettre. Ils apportent la lettre de la parole divine à une majorité au sein d'une communauté donnée. Mais selon la prophétologie chiite, chaque prophète est accompagné de un ou de plusieurs imams, lequel imam a pour mission d'initier une minorité au sein des fidèles au sens caché de l'écriture. Donc nous avons le couple de prophètes et d'imams, du prophète et de wali, de l'allié de Dieu, qui sont les messagers de la lettre et de l'esprit. Et effectivement, dans ce couple, effectivement, l'imam est l'herméneute, c'est-à-dire le messager du sens caché de l'écriture. Et je reviens à ce que vous disiez tout à fait au début et qui est très juste et très pertinente. L'imam est l'herméneute, c'est-à-dire l'exégète du sens caché. Mais il est également, dans son sens profond, la clé et l'objectif de cette exégèse. Parce que le sens ultime, le sens caché ultime des Écritures, c'est justement l'imam en tant que théophanie, c'est-à-dire la divinité de l'homme.
Tout en vous écoutant, je pensais à cette phrase attribuée au prophète, en disant chaque prophète a, je ne sais pas si le mot est approprié, un auxiliaire. C'est un peu comme Aaron pour Moïse, et mon Aaron à moi, c'est Ali. Donc le couple ou cette approche duelle du prophète et de l'imam, d'ores et déjà, se trouve y compris dans ces propos.
Oui, effectivement, mais c'est le fameux hadith al-manzala, n'est-ce pas ? Tu es à mon égard, tu as à mon égard la même relation que Aaron par rapport à Moïse. Et effectivement, c'est-à-dire ce que je viens de dire, selon la prophétologie chiite, tous les prophètes ont eu un imam ou plusieurs. Donc Aaron, ou selon d'autres versions, Josué était l'imam de Moïse, comme l'ensemble des apôtres, ou Simon-Pierre en particulier, ont été les imams de Jésus. Et donc Ali et ses descendants sont les imams de Mohammed. Et effectivement, donc, ces imams ont pour mission d'initier une minorité au sein de chaque religion, une minorité de juifs parmi les juifs, une minorité de chrétiens parmi les chrétiens, une minorité de musulmans parmi les musulmans, qui sont initiés par l'imam au sens caché de leur religion. Donc, les chiites de l'islam se présentent comme cette minorité d'initiés qui a toujours existé au sein de toutes les religions et qui sont initiés au sens caché de leur religion. Et l'objectif ultime ou le sens ultime de ce sens caché est effectivement la nature théophanique de l'imam.
Peut-on dire que cela explique la sacralité d'Ali dans l'univers théologique chiite?
Je le pense. C'est-à-dire que nous avons affaire, vous savez, dans les ouvrages hérésiographiques sunnites, l'accusation est constante, hein, contre les chiites, les auteurs sunnites, vous êtes les chrétiens de cette communauté.
Parce que Mohammed est le paraclet, Ali est le messie.
Entre autres, mais également parce que vous considérez vos imams comme des manifestations de Dieu. Mais effectivement, vous avez raison, c'est-à-dire que dans mon livre, le livre commence avec la figure de Ali dans le Coran. Donc dans le Coran, selon la perception chiite. Et donc après cette étude sur la figure de Ali dans le Coran chiite, je me suis posé la question pourquoi cette figure est tellement importante selon donc les chiites. Pour que Dieu lui-même en parle. Et si souvent dans le Coran. Parce que, bon, nous avons des sources chiites anciennes, c'est assez intéressant aussi pour l'histoire de la rédaction du Coran, des sources chiites anciennes qui donnent des citations coraniques que l'on ne trouve pas dans le Coran officiel. Nous avons des centaines de citations coraniques qui, selon le chiite, faisaient partie de ce Coran originel. Et ces parties-là ont été censurées par les autorités califales. Donc on ne les trouve pas dans le Coran officiel. Donc la question que je me suis posée, c'est que pourquoi Dieu accorde une telle importance à Ali dans son livre? C'est-à-dire que si on entend les chiites, Ali était infiniment plus mentionné dans le Coran que Mohammed lui-même.
Il n'y a que 4 occurrences, en gros, pour Mohammed. Voilà. Alors qu'il y en avait davantage de péricopes et de mentions d'Ali dans le Coran originel.
Voilà, selon les chiites. Et donc, je me suis intéressé à cette question et j'ai fait une sorte d'histoire à rebours, en quelque sorte, des débuts de l'islam. Et donc, je me suis intéressé à ce qu'on pourrait appeler l'apocalyptique coranique. C'est-à-dire ces couches anciennes du message de Mohammed. Anciennes, je dis, parce que, si vous voulez, ce qu'on appelle l'apocalyptique coranique, ce sont les 35 ou 30 derniers sourates du Coran, qui sont les sourates courtes, et qui ont la langue la plus archaïque, hein, c'est l'arabe la plus archaïque.
Parce qu'elles étaient les premières dans l'ordre chronologique, en gros.
Probablement oui. En tout cas, l'arabe de ces sourates courtes, qui ont une valeur, je dirais, littéraire extrêmement élevée, hein, ce sont vraiment des proses rimées, et qui parlent justement de la fin imminente du monde, des bouleversements cosmiques, et où les hommes sont appelés à être compatissants les uns les autres, de faire prière, de jeûner, de faire au monde, parce que la colère de Dieu tombe. Donc il y a cette question apocalyptique qui est extrêmement importante, lourdement présente dans le Coran, hein, c'est-à-dire nous avons des dizaines de sourates, et puis des dizaines de versets, et également très présente dans le hadith, dans les traditions prophétiques. Et donc, je me suis intéressé à partir de là également puisque, on le sait, le Coran le dit lui-même, l'appartenance du Coran et du message coranique à ce qu'on pourrait appeler la tradition biblique. Hein, c'est-à-dire que le Coran n'arrête pas de se présenter, Mohammed n'arrête pas de se présenter comme le successeur, en quelque sorte, comme le continuateur de Moïse et de Jésus. Donc, c'est quelque chose qui est revendiqué par le Coran lui-même, c'est-à-dire son appartenance à cette tradition juive et chrétienne ou judo-chrétienne. Et donc, si on appartient à la tradition biblique et on annonce la fin du monde, on ne peut pas ne pas annoncer la venue du Messie, la venue du Sauveur eschatologique. Alors, ce qui est problématique, c'est que le Coran ne parle pas de la venue du Sauveur. Jésus est appelé Al-Masih, le Messie, mais le Coran n'explique pas le mot. Le mot est présenté comme s'il s'agissait du nom de famille de Jésus, hein, à chaque fois, Isa al-Masih.
Ou peut-être tout simplement son sens étymologique, loin, celui qui a reçu l'onction.
Bien sûr. Mais, si vous voulez, si on annonce la fin du monde, le terme Messie se charge d'un autre sens, c'est-à-dire la question du sauveur de la fin du monde. Et de ce point de vue, le Coran est en contradiction avec le hadith, et c'est les couches anciennes de hadith, puisque les traditions prophétiques parlent très souvent de la venue du Sauveur. Et donc, alors ce qui est intéressant, c'est que dans les couches anciennes de hadith, ce Sauveur, c'est Jésus. Nous avons un grand nombre de hadiths où Mohammed donc, annonce la venue de Jésus. Alors là où les choses se compliquent...
Les musulmans sunnites et chiites attendent la parousie du Christ.
Alors... Après, les choses changent, c'est-à-dire qu'avec le temps, la figure du sauveur de la fin de temps va s'islamiser, en quelque sorte, et va s'arabiser. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, le sauveur de la fin des temps des musulmans ne sera plus Jésus, mais Al-Mahdi, hein, c'est-à-dire le guidé. Donc, pour les sunnites, un descendant indéterminé du prophète Mohammed. Pour les chiites duodécimains, il s'agit du 11e descendant de Ali, donc leur 12e imam, qui s'appelle l'imam caché, mais en tout cas, ce n'est plus Jésus. Jésus devient un compagnon du Mahdi. Mais il y a un nombre donc assez remarquable de hadiths où c'est Jésus qui est présenté comme le sauveur de la fin des temps. Et là où les choses se compliquent, c'est que nous avons également un certain nombre de traditions chiites, et en particulier des sermons attribués à Ali lui-même, où Ali déclare être une nouvelle manifestation de Jésus. C'est-à-dire que, probablement, parmi les partisans de Ali, il y avait un certain nombre, d'où l'existence de ces textes, qui considéraient que Ali est une nouvelle manifestation de Jésus. Alors attention, nous ne sommes pas en Inde, hein, il ne s'agit pas d'une réincarnation.
Ce n'est pas de la métempsychose.
Non, c'est-à-dire que ceux qui avaient fait de Jésus, fils de Marie, le Christ... Donc le Messie, c'est-à-dire la descente de Saint-Esprit en quelque sorte, Ali a subi la même expérience, ce qui a fait de Ali le second Christ.
Donc, nous avons des sermons où Ali dit très explicitement, Ana al-Masih al-Thani, je suis le second Christ, j'étais Jésus et Jésus était moi. Donc, il y a une identité établie entre Ali et Jésus en tant que second Christ et en tant que, donc, bien sûr, homme divin, ce qui est le cas du Christ, aussi bien chez les Juifs que chez les chrétiens, en tant que lieu théophanique, mais en tant que sauveur de la fin des temps. Donc, peut-être, alors ce sont des hypothèses, bien sûr, que j'avance, mais peut-être que les Alides ont gardé le souvenir de cette figure messianique de Ali, parce que, si vous voulez, ce qui arrive enfin, c'est ce qui arrivait dans d'autres religions, le prophète de la religion meurt, l'allié de Dieu ou l'être théophanique meurt, c'est-à-dire Ali, et le monde ne prend pas fin. Et donc les problèmes commencent. Et donc on réécrit l'histoire.
Khaled Bencher.
Nous parlons aujourd'hui de la grande figure centrale du chiisme et le premier imam de la doctrine chiite, de la religion. Même vous dites Mohamed Ali Amir Moïsi, vous qui êtes directeur d'études à l'école pratique des hautes études et titulaire de la chaire exégèse et théologie de l'islam chiite, digne successeur des grands islamologues qui vous ont précédé. Je cite Louis Massignon et Henri Corbin, et nous sommes extrêmement heureux de vous avoir à l'antenne de France Culture. Mohamed Ali Amir Moïsi, quels sont les arguments, si je puis dire, qui militent pour parler de la religion d'Ali et des fondements de cette religion? Parce que l'on sache, le chiisme n'est pas schismatique, c'est dans la nébuleuse islamique, mais il a ses spécificités, bien entendu. Donc, parler de religion d'Ali, ça sous-entend pour certains que c'est une religion qui s'adjoint à la religion de Mohammed.
Alors, l'expression « la religion de Ali » n'est pas de moi. C'est une expression ancienne, « din Ali », que l'on trouve dans un grand nombre, disons, de sources historiques et doctrinales, de sources historiques non chiites. Hein, des gens comme Tabari ou Balazari, donc des grands historiens des débuts de l'islam, en parlent.
C'est l'expression. Tabari, mort en 923, on est déjà au début du Xe siècle.
Voilà. Mais, disons, en parlant justement des débuts de l'islam et de l'entourage de Ali, apparemment, un certain nombre de ses fidèles se disaient fidèles à la religion de Ali. Alors, j'ai consacré dans ce livre tout un chapitre justement à cette expression énigmatique, hein, religion de Ali. Donc, bien sûr, c'est la religion de Mohammed. Mais peut-être avec ses spécificités. Donc j'ai essayé de c'est un long article, c'est une notion complexe, mais ce qui est intéressant pour nous, c'est que déjà cette expression était utilisée par les fidèles de Ali. Et je pense que effectivement la nature théophanique et la messianité de Ali jouent un rôle important dans cette religion. Donc pour les chiites, effectivement, donc rien que cette expression faisait des chiites une sorte de religion parallèle, donc des hérétiques au sein de l'islam. Alors que pour les chiites, le vrai message de Mohammed était la religion de Ali. Donc pour les chiites, Mohammed était venu pour justement souligner la question de l'alliance divine, c'est-à-dire annoncer l'existence d'un certain nombre de personnes sur terre qui sont les lieux de manifestation de Dieu. Donc, c'est-à-dire ce qui caractérise véritablement le chiisme, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la nature théophanique de l'imam et le fait que en quelque sorte, l'imam est le sujet et l'objet de l'herméneutique. C'est-à-dire, il est celui qui initie son fidèle au sens caché de l'écriture, et la limite, l'horizon ultime du sens caché de l'origine, c'est la figure de l'imam. Donc, il est en même temps sujet et objet de l'exégèse coranique.
Mohamed Ali Amir Moïsi, nous avançons tout au long de cette émission et nous progressons dans le temps. Quand vous parlez, et notamment dans votre ouvrage, que quelques passages sont aussi énigmatiques et mystérieux, vous prenez l'exemple de la sourate 97, donc la sourate dite de la nuit, traduit par la nuit du pouvoir, de la puissance, de la destinée, de la contenance, de la capacité. Le mot al-qadar est quasiment intraduisible ou en tout cas polysémique. En quoi cet exemple-là, cela doit édifier sûrement nos auditeurs, le passage concernant Ali est énigmatique?
Énigmatique dans le sens de je dirais presque antique, de mystérique. C'est-à-dire que
ou mystagogique.
C'est-à-dire que pour les chiites, de quoi il s'agit en gros, cette sourate qui est courte, hein, dit que il s'agit d'une nuit dans l'année où les portes du ciel s'ouvrent, où l'esprit et les anges descendent, et donc il y a une relation établie entre la terre et le ciel.
Et elle est paix jusqu'au lever du jour.
Alors, les musulmans ont, si vous voulez, à partir d'un certain nombre d'exégèses, ont dit qu'il s'agissait de la nuit de la révélation. Alors, pour certains, il s'agit de la révélation du Coran. Pour les chiites, non. Il s'agit de la révélation, pendant cette nuit, des événements de l'année qui va suivre. D'abord aux prophètes, et puis aux imams. Si vous voulez, ça c'est la spécificité de l'exégèse chiite de cette sourate 97, c'est que, donc effectivement, ils disent, bon, il s'agit d'une nuit cosmique, hein, qui existait toujours, avant Mohammed et après Mohammed, et donc c'est la nuit où Dieu, par sa grâce, par sa bonté, informe son ami, hein, c'est-à-dire son lieutenant sur terre, des événements qui vont survenir sur terre. Et donc, cet ami de Dieu, cet imam, en quelque sorte, ce guide, pouvait s'orienter par rapport à ces informations reçues. Et donc, selon le chiite, la nuit du destin ou la nuit du pouvoir existait avant Mohammed, mais elle doit exister également après Mohammed. Donc, en quelque sorte, après Mohammed, c'est-à-dire Ali et ses descendants, sont ces lieux de réceptacle, sont le réceptacle, lieu de réception de ces informations divines pendant la nuit du destin. Ce qui veut dire aussi, c'est-à-dire la question devient plus ample, en quelque sorte, pour les chiites, la prophétie continue. La prophétie continue, c'est-à-dire la réception de la révélation par des hommes divins ou par des femmes divines. La figure de Fatima est extrêmement, extrêmement importante. Elle est muhaddasa, c'est-à-dire elle peut entendre la voix céleste. Donc, il y a des hommes et des femmes qui continuent à exister sur terre et qui sont les réceptacles de la révélation. Pour les chiites, il était absolument insupportable de considérer qu'après Mohammed, toute communication avec Dieu serait interrompue.
Donc le dogme du scellement de la prophétie est insupportable théologiquement parlant pour les chiites, parce qu'il n'y a aucune raison pour que le flux divin s'interrompe.
Alors, ça l'a été pour les chiites, mais également pour les non-chiites. Je consacre tout un chapitre sur l'histoire, justement, de cette question du scellement de la prophétie, qui est fondée sur un verset coranique, le sceau des prophètes, hein, Khatam al-Nabiyyin. Et effectivement, je montre, à la suite d'autres savants, que pour les premiers musulmans, au moins pendant les trois premiers siècles de l'islam, le mot sceau ne voulait pas dire forcément la fin de la prophétie. Le sceau de la prophétie, c'est-à-dire le fait de confirmer les prophéties antérieures. Donc le sceau des prophètes, qui est d'ailleurs un des titres de Mani, hein, le prophète iranien, le fondateur du manichéisme, qui se disait être le sceau de trois prophètes, Jésus, Bouddha et Zoroastre. Donc le sceau des prophètes, c'est-à-dire comme un sceau vient confirmer le contenu d'une lettre, le sceau des prophètes, c'est celui qui vient confirmer les messages prophétiques antérieurs. Et donc, pour beaucoup,
d'aucuns ajoutent une forme de prééminence ou d'importance, mais ça ne veut pas dire que c'est un scellement.
Voilà. Donc, pour les musulmans, pour beaucoup de musulmans, l'expression scellement de prophétie ne signifiait pas la fin de la prophétie. Alors, pour les chiites en particulier, parce que pour eux, effectivement, les imams possèdent toutes les capacités prophétiques, c'est-à-dire la capacité de recevoir des messages célestes.
Oui. Un mot peut-être sur cette fameuse nuit. Elle est située globalement durant le mois de Ramadan, puis dans la dernière décade, les 10 derniers jours de ce mois. Et parfois, on veut bien croire qu'elle est la nuit de la 26e à la 27e nuit
Du mois de Ramadan.
Du mois de Ramadan.
Oui, mais selon les époques et selon les courants, oui, on n'a pas une date précise pour la nuit. On sait grosso modo qu'il s'agit d'une nuit de mois de Ramadan. C'est pourquoi, si vous voulez, traditionnellement, les musulmans pieux font des veillées pendant toutes les nuits de mois de Ramadan pour ne pas rater, effectivement, cette nuit où les portes du ciel s'ouvrent.
Oui. Mohamed Ali Amir Moïsi, pour les quelques minutes qui nous restent, parlons de Ali contemporain. Il est présent, omniprésent, y compris dans l'iconographie chiite, ce qui montre déjà que la fameuse idée de l'aniconisme dans l'islam n'a aucun sens, en tout cas pour son obédience chiite, bien au contraire. Et quelle est la dévotion actuelle, y compris dans le théâtre, enfin la tazia ou même d'autres formes d'art qui mettent en exergue cette figure centrale qu'est Ali.
Alors, votre question était la question initiale, disons, de mon livre. C'est-à-dire que je me suis posé la question, comment se fait-il que dans l'islam, et surtout dans l'islam oriental, Ali continue à être l'objet d'une véritable dévotion de la part de plusieurs centaines de millions de fidèles. Au moins 250 ou 300 millions de fidèles, donc les chiites bien sûr, mais également beaucoup de gens qui ne se disent pas chiites, comme, je ne sais pas, les Bektachis turcs, les alawites syriens, les alévites turcs, les harq kurdes, ou encore les soufis. Les soufis qui, surtout en Orient, vouent un véritable culte à la figure de Ali. Et donc ça, on arrive très vite à 250, 300 millions de fidèles. Et là aussi, ça fait partie des singularités de Ali. Il est le seul compagnon du prophète qui est resté objet de culte. Donc autour du prophète, il y avait des compagnons extrêmement importants. Je ne sais pas, je pense au deuxième calife Omar, qui est l'artisan des grandes conquêtes arabes.
Ce qui ne fut pas le cas de Ali, alors qu'il était dans sa capitale à Koufa, qui a prospéré, mais il n'était pas dans une optique d'expansion.
Non, effectivement, une autre singularité de Ali dont je parle, effectivement, il était connu pour ses capacités de guerrière, n'est-ce pas, le grand combattant de la foi avec Mohammed, et il est le seul, là aussi, compagnon du prophète qui n'a pas pris part aux guerres de conquête. Le seul. Donc là aussi. Et donc, effectivement, il reste contemporain, c'est-à-dire la figure spirituelle de Ali reste contemporaine, comme vous l'avez dit, dans le théâtre religieux qui est propre au chiisme, ça n'existe pas dans d'autres courants de l'islam. Il y a une véritable théâtre religieux où Ali est une figure centrale, et également dans ce qu'on pourrait appeler la spiritualité des icônes. C'est-à-dire qu'il y a effectivement un culte des icônes dans les terres chiites. Je consacre là aussi un chapitre de livre à cela, c'est-à-dire des icônes de poche, ça existe, et je parle de ces icônes de poche où la figure de Ali est absolument centrale, c'est-à-dire la quasi-totalité de ces icônes représente Ali, et où il sert de support de contemplation, surtout parmi les soufis, les derviches chiites, où effectivement on se concentre sur la figure de Ali pour découvrir, c'est comme ça que la chose est présentée, pour découvrir son Dieu personnel, sous forme de lumière en son propre cœur. Donc là, effectivement, Ali reste une sorte d'horizon spirituel aussi bien dans la mystique savante, chez les savants, chez les auteurs, chez les théologiens, les mystiques, etc., que dans la spiritualité populaire.
Et moi, je peux témoigner que j'ai entendu plusieurs fois, ou quasi systématiquement, à chaque fois que le nom d'Ali est prononcé, il y a une eulogie qui suit et qui est que Dieu l'annoblisse ou qu'il le rende encore plus noble et généreux.
Oui, effectivement. Bon, ça, c'est un peu le cas de tous les grands compagnons du prophète, hein. Radiallahu anhu,
mais pour lui, c'est karamallahu wajhahu, c'est-à-dire que sa face soit toujours anoblie.
Oui, absolument. Alors, il faut dire que, effectivement, la figure de Ali est extrêmement respectée dans le sunnisme aussi, hein. C'est un des plus grands compagnons du prophète et le quatrième calife bien guidé, comme disent les sunnites. Mais disons, sa figure est totalement différente. Il y a d'autres profondeurs, d'autres couches de sens dans la figure spirituelle d'Ali chez les chiites. Et là, ce qu'on trouve par exemple dans les différentes langues des pays chiites, c'est la présence de Ali dans un très grand nombre d'expressions. C'est-à-dire que un chiite qui est fatigué ou qui est malade ou qui est en danger demande toujours l'aide de Ali. À la limite, plus que l'aide de Dieu ou l'aide de Mohammed. Il y a énormément d'expressions en persan, en turc,
en ourdou,
etc., qui existent et qui montrent également cette présence spirituelle de Ali dans les couches les plus populaires, comme on dit.
Merci infiniment, merci. Grand merci, Mohammed Ali, Amir Moïsi. Je rappelle, vous êtes directeur d'études à l'École pratique des hautes études et titulaire de la chaire exégèse et théologie de l'islam chiite. Vous nous avez présenté Ali. Je suis sûr que les auditeurs vous en sauront gré. Et si vous voulez bien revenir nous parler davantage et du Coran chiite et aussi du Coran, puisque vous avez une connaissance notamment des premiers temps de l'islam. Chers amis auditeurs, c'était question d'islam. Vous retrouverez toutes les références des livres et des musiques sur le site franceculture.fr. Cette émission, comme toutes celles de la chaîne, est à écouter et podcaster sur le site de France Culture et l'application Radio France. L'attaché de production est Daphné Abkral. La prise de son est assurée aujourd'hui par Manuel Couturier et la réalisation est assumée par l'ami Franck Lila.